La grâce et la paix nous sont données. Seigneur, nous te rendons grâce et chantons ta sagesse. Nous t'adressons des cantiques de louange et de reconnaissance. Nous te remercions pour le don de la foi et la bonne nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, tu nous révèles ton amour, tu nous éclaires de ta vérité. Par lui, tu es venu nous chercher. Tu nous as ramenés à toi. Et aujourd'hui encore, nous t'en prions. Rends-nous sensibles à ta présence parmi nous. Je vous invite à vous lever et pour chanter, donc nous prendrons les spontanés du recueil bleu. On commence page 20, voilà, et invocation, etc. Et nous restons debout pour louer le Seigneur. Tu es béni, ô Dieu, toi qui as voulu être le Dieu de notre espérance. Tu es béni pour Jésus de Nazareth, qui nous ouvre le chemin de ton royaume, de vérité, de vie et de paix. Tu es béni pour ton esprit qui nous pousse à te chercher, à te chanter avec les croyants de tous les temps. Et donc je vous propose, justement avec les croyants, sinon de tous les temps, en tout cas des temps déjà anciens, de chanter le psaume 67 qui se trouve dans le recueil. Que Dieu Je crois que c'est le moment où les bancs se vident parce que les enfants de l'école biblique et leurs animateurs montent au premier étage. Donc merci à vous. Au deuxième étage, pardon. Nous avons eu cette semaine, enfin ces derniers jours, nous avons tous fait une expérience étonnante à partir d'un événement sur lequel je ne porte aucun avis personnel, en tout cas certainement pas ici, mais qui a quand même été étonnant. Nous avons vu sur tous les réseaux sociaux, sur tous les médias, un homme presque en pleurs dire « je ne veux plus me mentir ». Et quoi qu'on pense de sa décision, eh bien, spirituellement, ça m'a fait quelque chose. Voilà. Et donc, je voulais le dire avant de dénoncer la loi que Dieu nous donne. Ne proférez plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui volait ne vole plus, mais que tous s'adonnent à la solidarité en secourant ceux qui ont tant besoin de leur accueil et de leur aide. Ne colportez nul mauvais propos, mais proclamez toute bonne parole capable d'encourager, d'affermir, de réjouir ou de consoler ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Chassez de votre vie aigreur, emportement, colère, clameur, outrage. Soyez bons et compatissants les uns pour les autres et pardonnez-vous mutuellement. Amen. Et la loi de Dieu nous conduit à reconnaître nos difficultés, nos impuissances. Père, nous te remettons toutes choses. Fortifie nos mains pour l'œuvre qu'elles ont à accomplir. Remplis nos cœurs de ta paix, nos volontés de ta force. Nous dépendons de toi, tu es notre lumière alors même que le soleil s'obscurcit. Tu es notre boussole lorsque nous nous sentons désorientés et perdus. Tu nous apportes ta tendresse dans nos peines et l'apaisement devant ce qui nous agite et qui nous effraie. Dans ce monde, bien des choses nous paraissent indécise, inquiétante, mais ta grâce et ton amour sont certains, et donc nous nous remettons entre tes mains. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon de Dieu, c'est-à-dire l'annonce de son amour inconditionnel. À vous qui cherchez, qui avez dans un coin de votre conscience un regret, un mauvais souvenir, une angoisse, un remords mal lavé. À tous s'adresse une parole certaine, à tous les épuisés, à tous ceux qui doutent d'eux-mêmes, à tous les humains, il est dit, le pardon et la paix nous sont donnés. Je propose aujourd'hui comme confession de foi, et je n'ai pas eu le temps de l'imprimer pour tous, elle est longue donc vous l'écouterez simplement, mais nous la penserons ensemble, je l'espère. Je vous propose un texte, un poème de Jacques Juillard qui est paru il y a quelques années dans Évangile et Liberté. Les portes étaient trop grandes ouvertes, j'ai dû me perdre quelque part. Trop d'inconnus, de trop connus ont mangé mon espace. Je n'avais plus de place et ne me trouvais plus, sinon quelques lambeaux de moi éparpillés. Où j'avais trop fermé mes portes intérieures, je n'apercevais plus dans les fonds de mon être que restes racornis de promesses enfouies. J'ai dû me perdre quelque part, bousculé dans les courants qui traînent ou rétracté pour éviter le vent. Mais une voix me parle encore. Souviens-toi, tu es chemin ouvert à l'infini, champ de semences en attente de printemps. Tu es voyage, germination, enfantement. Ce qui te fait, toi, ce n'est pas un trésor figé qu'il faudrait abriter de ceux qui le menacent. C'est ce mouvement sans fin, cette force vive où jamais rien ne se perd, qui grandit et s'épanouit de traverser le temps. C'est cette force d'amour qui lie tout, qui te fait unique, qui te lance vers l'avenir. C'est cette voix qui t'appelle et ne se lasse jamais. Et que parfois tu nommes Dieu. Amen. Je crois, étranger sur la terre, je marche par la foi. Alors ceux d'entre vous qui ont pu venir au culte début juillet se souviennent peut-être qu'avec l'épisode du baptême du haut fonctionnaire éthiopien, puis celui de l'ouverture de l'église naissante aux non-juifs, vous vous rappelez avec l'accueil de Pierre par Pierre du centenier romain, Corneille et de toute sa maisonnée, avec ces deux épisodes, nous nous sommes brièvement immergés dans la vie et dans les conflits des communautés des tout premiers temps de l'Église. Et en ce premier dimanche de septembre, je vous propose pour les deux cultes qui viennent, donc aujourd'hui et dimanche prochain, je vous propose un survol presque aussi rapide, et donc peut-être, j'en suis désolée, mais on ne peut pas faire autrement, tout aussi frustrant, mais un survol d'un texte aussi important pour nous que pour ces premières communautés, justement. Une prière qui accompagne et qui nourrit la foi chrétienne depuis des millénaires, depuis deux millénaires. La prière du Notre Père. Ce texte que nous ne voulons plus réciter mécaniquement et que nous avons même, je le sais bien, quelquefois du mal à dire avec simplicité. En juillet, nous avions lu ensemble, comme notre père, les deux dimanches où j'ai fait le culte, la remarquable adaptation de cette prière par Vincent Hubach. Et c'est en effet son texte, un très beau texte, que nous aimons et que je vous proposerai à nouveau de temps à autre pendant cette année que nous allons passer ensemble. Mais il me semble qu'il serait dommage aussi de nous priver de la version commune d'une prière communautaire. Et donc, je vous propose de réfléchir ensemble à son histoire, au sens que les premières communautés pouvaient lui attribuer, aux difficultés, bien sûr, que le texte peut présenter pour nous aujourd'hui, et en même temps, à l'aide que cette prière peut néanmoins nous apporter. Alors, comme je l'ai dit, ce sera un peu frustrant, car c'est un sujet riche et inépuisable, un sujet auquel de nombreux ministres de différentes églises ont consacré une littérature très abondante. Une littérature qui a pris beaucoup de place dans ma valise cet été. Mais je vais essayer de m'attacher à ce qui me paraît essentiel pour nous. Et puis rien n'empêchera ceux qui le souhaitent de creuser la question de leur côté, bien sûr. Alors nous allons entendre successivement des textes de l'Ancien Testament, puis dans la foulée ensuite, en même temps, des lectures du Nouveau Testament. Mais d'abord, nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous sommes assemblés en ta présence pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour t'adorer et te louer. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, afin que ceux qui écoutent et ceux qui parlent entendent, dans le témoignage des Écritures, la voix de tous ceux qui nous ont précédés dans la recherche de ta présence à leur côté. Amen.
Alors nous lisons d'abord au deuxième chapitre du prophète Jérémie, les versets 26 et 28, 26 à 28. Comme un voleur a honte lorsqu'il est découvert, ainsi la maison d'Israël se couvre de honte, eux, leur roi, leur prince, leur prêtre et leur prophète. Eux qui disent à un morceau de bois, « Tu es mon père », et à une pierre, « Tu m'as engendré ». Car ils ne m'ont pas présenté leur face, mais leur dos. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous. Où sont donc tes dieux, ceux que tu t'es fait ? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. » Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, les versets 15 à 18. Regarde du ciel et vois de ta résidence sacrée et splendide. Où sont ta passion jalouse et ta vaillance? Ta compassion, le frémissement de tes entrailles, tout cela se refuse à moi. Pourtant, c'est toi qui es notre Père. Ce n'est pas Abraham qui nous a distingués. Ce n'est pas Israël qui nous a reconnus. C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur. Tel est ton nom depuis toujours. Et dans le psaume 33, les versets 12 à 15. Heureuse la nation qui a le Seigneur Yahvé pour Dieu, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Le Seigneur regarde du haut du ciel, il voit tous les humains. Du haut où il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui façonne leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs œuvres.
Nous lisons maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 7 à 13. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Et dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, nous lisons les versets 1 à 4. Il priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. Seigneur, ta parole est lumière et vérité, permets qu'elle éclaire notre chemin.
Alors, nous allons réfléchir aujourd'hui donc à la première partie de cette prière que nous appelons habituellement le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, ce texte est évidemment une construction à partir, vous l'avez entendu, à partir des deux textes que nous venons d'entendre. Ces deux textes qui se ressemblent, mais qui présentent de nombreuses différences aussi. Et puis, ce texte est surtout construit... Ça va le son ? Ce texte est surtout construit à partir de deux textes traduits du grec. Et ce qui complique encore un peu plus les choses, c'est que dans le cas de Matthieu, la première version qu'on a entendue, le texte grec a une forme qu'on appelle hébraïsante. C'est-à-dire que sa syntaxe, la forme des phrases en grec, ne correspond pas du tout à la syntaxe, à la forme habituelle des phrases en grec, mais à celle de l'hébreu ou de l'araméen. Et ce n'est pas tellement étonnant. Si le Notre Père a été vraiment dit par Jésus, sous une forme ou sous une autre, Jésus parlait en araméen. Et si la prière du Notre Père vient de lui, on peut même imaginer aussi qu'il l'a dite plusieurs fois, et pas forcément toujours exactement avec les mêmes mots et avec les mêmes phrases. Bien, autre question. Les biblistes ont remarqué, depuis longtemps à vrai dire, et surtout, bien sûr, depuis 70 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 70 ans ? Il y a 70 ans, on a découvert les fameux manuscrits de la Mer Morte à Qumran. Et justement, dans ces manuscrits, on a découvert des prières qui ressemblaient beaucoup. Pas exactement, mais des fragments. De toute façon, c'était que des fragments. Mais ils en ont quand même reconstitué un certain nombre. Et donc, on a découvert que cette prière ressemblait beaucoup à d'autres textes. Des textes écrits justement en araméen. Et puis, pour terminer avec les informations, disons, un peu académiques, les textes, j'en profite pour le dire, je le ferai en général d'ailleurs, les textes que je vous propose sont toujours pris dans la traduction de la Nouvelle Bible Seconde d'études, c'est-à-dire c'est une des dernières avec les dernières, les informations les plus récentes. Et justement, les traducteurs de donc cette dernière édition de la Nouvelle Bible Seconde ont inséré dans le texte de l'Évangile de Matthieu, à côté du texte qu'on vient d'entendre, un cadre dans lequel se trouve le texte de la prière juive qu'on appelle le Kaddish. C'est une prière juive un peu différente, assez différente, ancienne. Mais peut-être, soit elle a inspiré celle des premières communautés, soit peut-être le Kaddish ou le Notre Père ont une origine commune, une prière plus ancienne. En tout cas, le début est très significatif. Je vous lis juste la première phrase. Qu'il soit magnifié et sanctifié son nom grand dans le monde, qu'il a créé selon son bon plaisir. Il y a une grande différence quand même. C'est qu'on ne s'adresse pas à Dieu, on parle de lui. Bon, pour en finir avec les comparaisons, une seule chose me paraît à peu près certaine. Les rédacteurs des évangiles, les deux rédacteurs des évangiles, parce que pas les autres, ça ne figure que chez Matthieu et Luc. Ces deux rédacteurs ont inséré dans le texte une prière qui était déjà utilisée par les croyants de leur propre communauté. Ils avaient leur communauté. Ils ont écrit les évangiles d'abord pour leur communauté, pour qu'ils aient des textes. Eh bien, probablement, cette prière était déjà dite. Et ça explique aussi les différences. Quand ces textes ont été écrits, alors pour Matthieu, peu après 70, et sans doute une petite dizaine d'années plus tard pour Luc, le Notre Père était déjà en usage dans les communautés. Les croyants le disaient déjà, peut-être individuellement, on n'en sait rien, mais certainement ensemble, au culte. Et donc, ça n'a rien d'étonnant qu'il l'ait dite et écrite dans des versions un peu différentes selon les communautés, justement. Alors maintenant, regardons la nôtre, celle que l'Église a rapidement adoptée et fixée dans sa traduction latine, puis dans la traduction, ou plutôt les traductions en français. Et pensons-y, les protestants ont été les premiers à traduire et à dire le texte en langue vernaculaire, en langue du pays dans lequel ils se trouvaient, dans leur propre langue. Et dès le début, et c'est très important, les protestants français ont respecté le tutoiement du texte grec. Et avant Vatican II, quand il y avait d'autres versions du Notre Père, les protestants étaient quelquefois appelés les tutoyeurs de Dieu, ou même, de manière plus péjorative, les tutoyeurs. Et je crois en effet que ce tutoiement, qui est tout à fait naturel en grec, comme dans les langues hébraïques, particulièrement, nous le savons bien, dans les psaumes, et d'ailleurs ce tutoiement était aussi en usage forcément dans la version latine, et qui a été adopté maintenant par toutes les confessions depuis Vatican II, ce tutoiement a favorisé la relation directe et intime de chaque croyant avec son Dieu. Tutoyer Dieu par le Notre Père est à la fois pour nous une évidence et une joie. Et puis surtout, la traduction française débute par l'adjectif possessif « notre », « notre Père ». En grec, c'est l'inverse, « pater hémon », « Père de nous ». Mais pour nous, je trouve que c'est une grande chance, parce que dès le premier mot, cette prière fait de nous, nous qui la disons, nous qui l'écoutons ou la pensons, sans vouloir ou sans vraiment la dire, c'est pas grave, cette prière fait de nous une famille, et peut-être même mieux qu'une famille, parce qu'on ne choisit pas sa famille, une communauté. En disant ces premiers mots, nous prenons conscience que nous nous présentons devant Dieu ensemble, dans une recherche qui nous unit, qui nous permet à la fois de respecter nos individualités et de les dépasser. Et je pense que cette prise de conscience est déjà un élément de paix et de libération. Voilà, je crois qu'on est entré dans le cœur du texte. Pour moi, le Notre Père est synonyme de paix et libération. Alors bien sûr, les problèmes aujourd'hui pour nous surgissent, il ne faut pas les gommer dès la première phrase. Pourquoi Notre Père ? Pourquoi Père ? Pourquoi dans les cieux ? Il faut savoir que le nom de Dieu et le nom de Père sont très très souvent associés dans l'Ancien Testament, et en particulier dans les noms des personnes. Si vous trouvez les sons Ab, Abba, hein, Ab, c'est Père, et les sons El, Ya ou Yo, c'est Yahvé ou Dieu, El, vous voyez que vous avez très souvent des noms qui comportent les deux. Par exemple, Abiya signifie « Dieu est mon Père », Eliab, mon Dieu et Père, Eli, mon Dieu et Père, Abiel, Dieu et mon Père, Joab, Yahvé et Père. J'arrête. Alors, donc, bien sûr que cette expression nous renvoie à l'image du vieux barbu dans une société patriarcale. Et nous avons raison, bien sûr, de remettre en question cette image. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dépasser ce rejet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte, mais nous pouvons être attentifs à l'histoire que nous avons entendue dans les premières lectures, celles que nous a faites Elisabeth, les lectures de l'Ancien Testament. Comment la foi s'est déplacée du morceau de bois qu'on appelait Père, ce qui mettait Jérémie tellement en colère, au Dieu unique et rédempteur, dont Ésaïe recherche la compassion paternelle, ça change déjà, même si Ésaïe, en fait, enfin bon. Il recherche la compassion paternelle, c'est-à-dire tout simplement l'amour. Ce Dieu que l'humanité se représente au ciel, et il faut bien se le représenter quelque part, mais je crois que l'humanité se représente Dieu au ciel depuis qu'elle se tient debout. Le sentiment de transcendance nous vient de la station debout. Je crois que notre Père qui est aux cieux est celui qui, d'une manière ou d'une autre, depuis 3 millions d'années, accompagne notre évolution, nous a mis debout et nous a donné et nous donne encore le désir de lever la tête et nous permet aujourd'hui de le chercher ailleurs que dans la pierre dressée ou le bois sculpté. Mais bien sûr, cette recherche, nous la vivons dans une relative frustration parce qu'on le cherche, on ne le trouve pas forcément. En tout cas, on ne cherche pas forcément, on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche, ou du moins comme une attente. Et cette attente, cette frustration, nous les entendons exprimer ici, justement, avec les mots de cette même prière juive qui a peut-être inspiré le Kaddish. « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ça veut dire aussi « Moi, j'en suis incapable. » Nous prenons, en disant ces mots, nous prenons conscience qu'il s'agit d'un acte relationnel, mais un acte où Dieu a un rôle prépondérant, qui nécessite cependant une réponse de la part de l'humanité. Ces phrases ne sont pas des demandes d'intervention directe. Et par exemple, il me semble qu'il y a une traduction qui dit « Fais savoir qui tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté ». D'abord, elle ne correspond pas au texte grec. Et deuxièmement, c'est un contresens. Ce n'est pas une demande « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », tout simplement par ces mots et par cette forme verbale, subjonctif. Eh bien, nous reconnaissons, nous acceptons avec simplicité notre propre impuissance. Par ces mots et cette forme verbale, nous prenons conscience avec simplicité que Dieu représente bien nos aspirations les plus profondes, mais des aspirations auxquelles nous ne parvenons pas à répondre par nous-mêmes. Que lui seul peut répondre à notre désir, notre besoin fondamental d'unité intérieure et même, sur la terre comme au ciel, d'unité cosmique. Et je crois, pour terminer, je crois vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sans nous permettre d'oublier nos obligations envers nos frères et sœurs humains, et ces obligations, nous y réfléchirons dimanche prochain avec la deuxième partie du Notre Père, je crois que cet état d'esprit qui nous réunit devant Dieu est porteur de libération et de paix. Amen. J'avais un peu oublié l'ordre habituel des choses, donc j'ai placé l'offrande dans mon déroulé, mais je crois que c'est l'inverse. Les annonces d'abord, c'est ça? Oui. Eh bien, Ah, il n'y a pas d'annonce. Alors, est-ce qu'il y a des annonces? Alors moi, je peux en faire une. Il va y avoir une exposition sur les temples, une jolie exposition qui se tiendra à partir du 15 septembre. Je l'ai vue avant, c'est une exposition de photos avec pas seulement les temples, en fait, différents lieux de culte de Paris. Je suis en train d'essayer, Paris Théâtre des Religions, voilà, avec de belles photos et on entend aussi, il y a des choses sonores, qui se tiendra à l'église luthérienne du Bon Secours à partir du 15 septembre. Et j'ai reçu une demande de la part du président de leur conseil presbytéral pour que, si quelques bonnes volontés veulent participer à l'accueil, ce sera une dizaine de jours, eh bien, elle se manifeste, il ne faut pas forcément longtemps, mais c'est vrai que ce serait pas mal que, voilà, qu'on soit présent physiquement dans cette exposition. Par ailleurs, la semaine prochaine, il y a eu un petit malentendu, et donc les mêmes dates ne sont pas annoncées pour le catéchisme et l'école biblique. Normalement, il n'y a pas école biblique ni catéchisme dimanche prochain. Mais comme ça a été annoncé un peu par ma faute, dans Parole protestante, je serai là à 9h pour accueillir les éventuels catéchumènes qui se précipiteraient. Voilà. Et donc, voilà.
Un petit mot, bonjour à tous, pour remercier Catherine Axelrad pour ce premier culte de rentrée. Bravo et merci. Catherine, comme vous le savez, va assurer une mission en tant que chargée de mission pastorale pour toute cette année de vacances qui commence aujourd'hui. Nous allons avoir un certain nombre de pasteurs qui viendront d'un peu partout pour assurer des prédications et des cultes régulièrement. Et puis certains d'entre vous, d'entre nous qui sommes prédicateurs laïcs, pourront également prendre le relais à certains moments. Et Catherine assurera la plus grande partie des cultes, bien entendu. Et on l'en remercie d'avance, ainsi que beaucoup d'activités. Voilà, pour vous dire également qu'on a tout de même un culte de rentrée qui est prévu le 30 septembre, un petit peu plus tard que d'habitude. Et puis, il y aura également le 16 septembre un culte un peu particulier, qui est le culte d'installation de Catherine dans sa mission de chargée de mission pastorale, qui sera fait par Bertrand de Cazeneuve, qui est président de la région. Et on l'en remercie également. D'autres choses à annoncer sur les cultes?
Désolée, je ne veux pas que vous soyez déçus. C'est quand il m'a demandé de faire la prédication.
Mais non, mais c'est très bien. Et puis par ailleurs, je suppose que... Oui, bien sûr, bien sûr.
Moi, j'espérais qu'il la ferait. Mais...
Par ailleurs, je suppose que vous avez tous reçu le numéro de l'amitié de septembre, dans lequel j'ai eu le plaisir de vous annoncer la nomination de notre nouvelle pasteure, puisque c'est une femme, qui arrivera à partir du 1er juillet 2019 et qui s'appelle Dominique Hernandez. C'est une femme qui est actuellement pasteur à Massy-Palaiseau et qui, après la prédication qu'elle a faite ici et les quelques réunions et rencontres qu'il y a eu avec le conseil presbytéral, nous a vraiment convaincus qu'elle avait les qualités, le talent, l'ouverture, la gentillesse et l'exceptionnelle connaissance théologique qu'il nous faut pour le futur du foyer de l'âme. Donc on est très très heureux de partager cette nouvelle avec vous. Et donc Dominique arrivera le 1er juillet 2019. Voilà. Et en attendant, on va vivre tous ensemble une année de vacances pastorales que nous souhaitons dynamique, chargée, et dans laquelle, bien sûr, on attend la contribution de tous pour que ça se passe au mieux. Mais on est très, très, très optimiste pour cette année. Merci.
Je suis moi-même très heureuse de cette... cette élection, puisque je crois que c'est de votre appel, de votre élection, et je travaillerai cette année, bien sûr, en accord avec Dominique, déjà. Je crois que c'est le moment de l'offrande, il n'y a pas, jusqu'à la semaine prochaine, il n'y a rien de particulier, donc... Alors, pendant l'offrande, nous prenons le cantique 236. Ah, pardon, 250. Ah oui, merci. 258. Merci, Nicole. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. Donc, je vous invite à prendre le cantique 258. et à vous lever si vous le voulez, je ne sais pas, voilà, oui. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Nous te célébrons, Dieu de vérité, nos pas incertains, nos yeux aveuglés, perdront leur chemin et vont s'égarer. Bien mettre en nos nuits ta vive clarté. Nous unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu, notre Père, ta parole nous redit sans cesse la promesse de ta présence. Permets-nous d'en être les témoins dans notre monde pour lequel nous te prions. Pour la terre que nous abîmons, pour la vie que nous ne respectons pas. Nous te prions avec tous les errants, toutes les victimes des guerres, de la soif de pouvoir et d'argent, et du fanatisme. Donne à chacun de nous et aux responsables européens la force de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Ne permets pas que les difficultés et les inquiétudes nous fassent perdre le sens de la responsabilité fraternelle que tu nous as confiée. Christ, notre frère, nous te prions aujourd'hui en union avec nos frères et sœurs réunis à l'Assemblée du désert. Accompagne-nous, accompagne chaque jour notre communauté et notre Église. Soutiens-nous dans les difficultés, sois présent avec nous dans les moments de joie partagée. Aide-nous à accueillir nos jeunes. Aide-nous à leur communiquer la joie de la recherche et de la foi. Aide nos malades et nos anciens. Aide-nous à demeurer, à devenir une communauté encore plus fraternelle. Esprit de Dieu, nous t'en prions, accorde-nous le désir de le connaître, la joie de le découvrir ou de le retrouver si nous l'avons perdu. éclaire les humains qui s'égarent en confondant la volonté de Dieu et la leur, en croyant que la foi peut justifier la violence. Souffle sur l'Église universelle. Permets-lui d'être en tout temps et en tout lieu l'écho de ta parole qui accueille, console et donne la paix. Et je vous propose de conclure ensemble cette prière en chantant le cantique 236. Je vous l'introduis. Vous allez voir que c'est une version du Notre Père, une version chantée sur la même mélodie que celle du psaume 91, que donc on connaît, que cependant Nicole va avoir la gentillesse de nous jouer en entier une fois pour qu'on nous la remette dans les oreilles. Et juste avant, je voulais juste vous dire, vous remarquerez que là justement c'est déplorable, mais on n'y peut rien, c'est à cause de la forme du texte, le nôtre n'y est pas, mais comme nous allons le chanter ensemble, il y sera quand même. Merci Nicole de nous jouer juste l'air intégralement une première fois. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez préparer le cantique 389 que nous chanterons après la bénédiction et avant d'écouter l'orgue. Prenons le temps de jouer, le temps de rire, c'est une gorgée d'eau fraîche. Prenons le temps de donner, c'est du pain pour l'affamé. Prenons le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Prenons le temps de prier, c'est notre force sur la terre. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu nous bénit et nous garde. Dieu tourne vers nous son regard et nous donne sa paix. Amen. Demeure par ta grâce. Très bon dimanche à tous et bonne écoute, puisque nous allons écouter Nicole, que je remercie pour son accompagnement tout au long de ce culte.